Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Mistral. Et je ne suis pas seule dans notre studio parce qu'on a Jean Saramet avec nous ce matin, notre historien préféré. Bonjour Jean.
Bonjour, un grand bonjour à toutes et à tous.
Comment allez-vous?
Mais fort bien.
Oui, ça passe bien les vacances?
Oh oui, 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 oui.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis notre dernière visite?
Ah, les promenades en altitude. Ouais. Les myrtilles commencent à mûrir depuis quelques jours. Et les fréquentes pluies, voire orages, maintiennent ouais. des fleurs, maintiennent la verdure. C'est beaucoup plus joli que l'an dernier où c'était une sécheresse très prononcée en août septembre.
Par contre, on a eu un bouillement.
Et oui, il y a eu de beaux orages par endroits.
À Nevache, ils étaient très touchés, apparemment, cette maison.
Oui. Il faut dire que la Clarée, là, coule à fleur de vallée, à fleur de plaine, pas toujours endiguée. Donc, évidemment, un gros orage un peu en amont, le débit augmente très vite.
Aujourd'hui, on va continuer avec les communes.
Et oui, on va longer la frontière.
C'est ça, on va traverser. On va faire Montgenèvre et Servières aujourd'hui. Hein.
Voilà. Alors, Montgenèvre, c'est une particularité géographique. Un beau terroir, 40 km², entre 1300 mètres et 3100 mètres, le Chaberton. Mais c'est vraiment une particularité. C'est, semble-t-il, sauf erreur, dans la chaîne des Alpes, le seul village qui se trouve sur un col, juste sur la ligne de partage des eaux entre la Dora, la Doire, le Pô et l'Adriatique, et la Durance et le Rhône. Ensuite, c'est un ancien terroir cultivé. Il y a eu pendant longtemps des légumes, des champs d'orge, de seigle, même si de nos jours, ça paraît beaucoup moins. Et puis, toujours sur le plan géographique, ce sont les sources à quelques centaines de mètres de distance, les sources de la Durance et les sources de la Doire, donc sur lo spartiacque, comme on dit en italien, sur la ligne de partage des eaux. Mais rien ne l'indique. On peut considérer que l'obélisque de 1804, en quatre langues, est sur la ligne de partage des eaux. Voilà. Autre particularité, c'est une des plus anciennes stations de sport d'hiver de France. Bien avant Serre Chevalier, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait servi aussi de lieu d'entraînement aux chasseurs alpins de Briançon. Et puis ce terroir descend jusqu'à la Clarée, puisque le hameau des Alberts fait partie de Montgenèvre. Et entre les deux, il y a une magnifique forêt de mélèzes en altitude, de pins sylvestres un peu plus bas, ce qui, fin octobre, donne un contraste de couleurs absolument splendide. Sur le plan géologique, c'est un petit peu complexe. On est là sur un contact de structures géologiques profondes des Alpes, avec une grande curiosité morphologique et géologique qui est bien connue, très étudiée, mise en valeur par le centre de géologie appliquée et alpine de Briançon, c'est le massif du Chenaillet. Ce massif du Chenaillet qui est, disons, au sud-est de Montgenèvre, qui est accessible bien sûr par télésiège si ça fonctionne et puis ensuite par sentier. Ce sont des basaltes en coussin, ce qui est relativement rare à la surface émergée de la planète, puisque c'est un reste d'un ancien océan, d'un fond d'océan. Donc c'est un fond d'océan fossile, entre guillemets. Et sur le plan géologique, c'est connu, étudié, visité, c'est très célèbre. Autrement, c'est ce qu'on appelle les écailles du Trias, c'est-à-dire 250 millions d'années, surtout calcaire, un peu de dolomie, un peu de grès, avec cet énorme rocher à 3100 mètres, qui est le massif du Chaberton. Et puis, comme partout en montagne, des plaquages de moraines, des éboulis. C'est un lieu de contact géologique, géographique, humain bien sûr, puisqu'il y a la frontière. D'où la curiosité historique de Montgenèvre. On a l'habitude, depuis 3 siècles, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, de considérer que la ligne de sommet est une frontière. Ben, c'est relativement récent. Dans l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à Louis XIV, les grandes chaînes de montagnes, c'était plutôt des communautés humaines qui assuraient le passage d'un versant à l'autre. Le commerce, les armées bien sûr, et les migrations de particuliers. Et là, Montgenèvre assurait le déneigement, l'entretien des moyens de transport au cours des époques, héberger pendant les périodes de tempête les voyageurs en difficulté. Et c'était donc le rôle de cette communauté humaine de montagne, 1800 mètres. C'est pour ça que la population s'est maintenue au cours des siècles, entre 200 et 350 habitants.
Ouais, c'était, je voudrais savoir, la population, c'est petit, hein, 250.
Oui,
hein.
Oui, habitants permanents,
ouais, hein, ouais,
évidemment,
bien sûr,
pendant les sports d'hiver ou pendant l'été.
Mais comme les autres communes, il y a plus de monde quand même. Hein,
oui,
je suis étonnée qu'il y a moins.
C'est beaucoup plus bas.
Ouais,
c'est beaucoup plus bas.
Ouais.
Là, on est quand même à 1800 mètres.
Ouais.
L'agriculture n'existe plus beaucoup. Hein. Mais on est autour entre 500 et 600 habitants permanents. Mais côté italien, c'est pas pareil. Hein. Clavière, qui est la première commune piémontaise, c'est une des deux plus petites d'Italie. Et c'est également très, très peu peuplé. Alors, il faut imaginer. Les livres le disent, bien sûr, l'Office du tourisme aussi, mais il faut imaginer la quantité de personnalités qui, au cours de l'histoire, sont passées à Montgenèvre.
Qui ?
Ben, Jules César, entre autres, qui y est
Jules
passé.
Jules César, il
oui,
était
avec
là.
Ses armées. Ben, bien sûr, lorsqu'il venait faire la conquête de la Gaule, on ne prenait pas pendant des milliers d'années l'axe du bord de mer, qui était très montagneux, qui était très difficile, avec des populations ligures qui n'étaient pas très accommodantes. Donc, c'était le col du Montgenèvre qui était un des plus bas des Alpes. Hein, 1800 mètres, c'était un des plus bas. Tous les autres sont à 2000,
ouais, 2000.
Ou plus. Donc, Jules César est passé plusieurs fois.
Il y a des choses qui restent, lui, des...
Oh, ben,
il n'y a pas des choses romaines, des sculptures.
Il y a un temple romain, un reste de temple romain, c'était la Via Domitia. Hein.
Ouais, ouais.
Mais avant, il y avait les Celtes, les Ligures, qui assuraient justement le contact entre les deux versants.
Les Celtes, ils étaient allés si loin que ça?
Ah ben oui, la conquête celte qui avait dominé l'Italie du Nord, puis une grande partie de ce qui deviendra plus tard la France. Mm-hmm. Mais avant, il y avait les Ligures. Névache, le nom de Névache, ça vient de Annevasca, il n'y a pas de vache dans l'affaire. Et tous les noms en Ask, Osk, Esk, dans des deux côtés d'ailleurs de la chaîne des Alpes, ce sont des noms ligures d'origine, c'est-à-dire bien avant les Romains.
Okay.
Alors, sait-on que Léonard de Vinci, lorsqu'il est invité par François Ier et qu'il va finir sa vie sur les bords de la Loire, Léonard de Vinci, en plein hiver, tremblant de fièvre parce qu'il a pris le paludisme dans les marais près de Rome, Léonard de Vinci est passé au Montgenèvre avec les 3 tableaux emblématiques, dont la Joconde,
non.
qu'il a porté avec lui en France. Eh oui.
Non, je ne savais pas ça.
Et puis, bien sûr, pas mal d'armées. L'armée française avec Napoléon III qui vient aider les débuts de l'unité italienne. Il y en a une partie qui passe par Toulon et Gênes, et puis l'autre partie, elle passe par le Mont-Genèvre en 1859, hein, au printemps 1859. Alors, la question de la frontière. Bon, c'est 1713, le traité d'Utrecht, après la longue guerre de succession d'Espagne. Et ce traité d'Utrecht pose comme règle, hein, entre la France et le Piémont, il n'y a pas encore d'Italie, système des eaux pendantes. Les eaux pendantes, toutes les eaux qui descendent vers le Pô et l'Adriatique sont en Piémont. Et toutes les eaux qui descendent vers la Clarée, la Durance, sont dans le royaume de France. Sauf à Montgenèvre, où la frontière prend un petit peu la haute vallée de la Doire, parce que la communauté humaine de Montgenèvre a dit « mais on a tous nos pâturages ». Et les pâturages, ils se fichent pas mal de la ligne de partage des eaux. Donc ça a été la seule exception. Autrement, la frontière était sur les crêtes, disons, donc à partir de 1713. Et puis, il y a eu les combats de 1940, de juin 1940, quand Mussolini décide d'attaquer la France. Les combats du Chaberton, puisque l'artillerie française, depuis les alentours de Briançon, va détruire 5 des 8 pôles du fort du Chaberton. Et au traité de paix, en 1947, la France annexe tout le massif du Chaberton.
D'accord.
Et Clavière reste en Italie, mais Clavière est corseté par la frontière française. Il y a même une bizarrerie qu'aucun touriste ne connaît. Dans le village italien de Clavière, il y a une maison française. Et la frontière fait le tour de cette maison. Il y a une maison à Clavière qui appartient à Montgenèvre. Et la commune de Montgenèvre doit fournir l'eau et l'électricité depuis la France à cette maison.
Non.
Ah oui.
Mais c'est possible. Bon, évidemment, c'est possible. Mais...
Oui, ah c'est possible. Mais parce que
ça, c'est rigolo.
La colline en face est française, disons.
Ouais. Ah
mais vous avez énormément de petites bornes frontières en granit qui délimite donc les deux pays. Et Clavière est vraiment corsetée, disons, par cette frontière. Bon, et le territoire de Montgenèvre, ben, il y a les anciens forts, hein, que ce soit l'ancien fort italien du Chaberton, que ce soit le fort français du Janus. C'est vraiment un territoire pétri d'histoire. Et... bon, les touristes passent ou bien viennent faire des randonnées l'été, de la luge d'été également, et qu'une vue très à la fois vers les écrins, mais aussi vers les hautes montagnes au-dessus de Sestrières, hein, au-dessus de la proche et célèbre station de sport d'hiver italienne. Et puis, bien sûr, c'est un axe de passage avec, depuis un certain nombre d'années, ce tunnel sous la station qui est bienvenu, parce qu'autrement, le gros trafic de camions, puisque...
Quel tunnel ? Le tunnel Turin, Lyon-Turin ?
Non, le tunnel sous la station,
qui
fait quelques centaines de mètres,
ouais,
mais qui évite le passage des camions dans la station elle-même, ce qui se faisait
Parce qu'il y a ce grand projet de faire ce tunnel de Lyon à Turin.
C'est un très ancien... Alors, le tunnel Lyon-Turin, c'est autre chose, parce qu'il va de la Maurienne à Suse. Ce serait, s'il est financé, s'il est réalisé, c'est pas sous le Mont-Genève. Hein. C'est un tunnel de plus de 50 km. C'est un énorme chantier, très coûteux, qui est sur les rails, qui est commencé côté français, mais qui est un petit peu contesté, surtout côté italien, même si l'Europe en finance une partie, le coût et la durée des travaux sont gigantesques et se pose, comme toujours, la question de la rentabilité, puisqu'il y a déjà un tunnel routier, un tunnel ferroviaire, certes plus haut en altitude et peut-être à débit moins facile, mais bon, puis il y a un autre argument à une autre échelle, c'est que la Suisse, depuis quelques années, a terminé de nouveaux tunnels, de nouveaux axes, ou bien la modernisation de grands axes routiers et ferroviaires sous les Alpes, de telle sorte que pour l'essentiel du trafic, que ce soit du trafic passager, mais surtout du trafic de fret, du trafic de marchandises entre l'Europe du Nord et l'Italie, et même entre les îles britanniques et l'Italie, c'est pratique de prendre le réseau suisse et d'arriver directement en Lombardie. qui est quand même le cœur de l'économie italienne. Alors, je ne dis pas que ce tunnel est inutile.
Il aura son utilité,
puis ça fait évidemment quelque chose de fantastique.
Mais j'ai déjà entendu ces arguments.
Au niveau économique, je pense à des économistes universitaires, surtout italiens, qui considèrent que c'est une dépense gigantesque pour quelque chose qui n'est peut-être pas indispensable. Voilà. Maintenant, après, c'est un débat.
Oui, exactement. Bon, nous, on reste toujours à Montgenèvre. Un poème, hein?
Oui. Oh, un poème, alors, un petit peu plus long. Col de Montgenèvre. Acrostiche. Couloir d'amples prairies, sous les sommets neigeux, ourlés de pentes douces, en écrin de mélèzes, le col de Montgenèvre est de tout temps fameux. De grands noms de l'histoire ont longé ses falaises en quittant Briançon, Versuse et le Piémont. Montant droit vers l'azur trône le Chaberton, où sa masse de roc peut surveiller la France. Non loin voit le Janus, source de la Durance, tous deux en sentinelle et couronnés de forts. Grande et cruelle histoire, où ce lointain accord en 1713 a fixé la frontière, niant d'un même peuple une unité entière. Et sous Napoléon, une route enlacée vainquit les deux versants d'un pérenne corset, reliant deux pays, la précoce station étant au sport d'hiver l'amitié des nations.
Yeah, j'aime bien ça. Moi, je suis juste en train de penser que c'est un dommage que Leonardo da Vinci, comme on dit en anglais, il n'a pas laissé son tableau.
Que serait-il devenu avec les guerres depuis la Renaissance?
On pouvait l'enfermer dans les forts de Toitette ou quelque chose.
Ils ont été construits deux siècles plus tard, deux siècles plus tard.
Quand même,
avec la neige, la glace, le climat. Il aurait fallu une chambre forte, mais bon, il aurait...
Comment ça finit, les Louvres, alors, hein?
Ah oui, bah oui, ça a été donné à François Ier, qui a invité Léonard de Vinci à finir sa vie au Clos Lucé, à Amboise. Et ensuite, les trois tableaux, dont le Sainte-Anne, ont été... donné à la France.
Se trouve
au Louvre. Voilà.
On est dans les frontières alors, et vous avez choisi une chanson pour nous aujourd'hui. C'est quoi, Jean?
Oui, que je connais assez peu, mais qui est très jolie et ancienne, que des personnes du troisième âge me fredonnent de temps en temps. C'est Montagne d'Italie.
On va l'écouter, Patrice et Mario.
Montagne d'Italie, souvenir dans ma vie, farandoles et chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait, car il y a que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet. Et les accordéons répétaient cet air joyeux. Les filles du pays en dansant baissaient les yeux. Les oiseaux chantaient dans le feuillage. Mariage au village. Et le petit vin doux réchauffait les vieux parents. On voyait grand-maman qui dansait clopin clopin en disant c'est encore de mon âge, car j'ai l'âge du bon temps. Montagne d'Italie, souvenir dans ma vie, farandoles et chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait, car il y a que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet. et tous les amoureux, mes amis, étaient joyeux. Je me souviens encore du soleil au ciel tout bleu, les oiseaux chantaient dans le feuillage. Mariage au village, elle lui donnait le bras en sortant de la mairie, et lui était heureux de l'aimer pour toute la vie. Leur amour est né près des nuages, des montagnes d'Italie. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait, carillon que les gars des montagnes accompagne d'un bouquet. La Réodi, chante montagnard, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. La Réodi, chante les beaux jours, chante pour toujours. La chanson de ton amour, la chanson de ton amour.
Très bon choix, hein, Jean. Ça
oui,
nous
qui
emportait,
fait
hein.
Référence peut-être un peu plus à l'Italie vraiment du Nord, Trentin au Tadige, c'est-à-dire le Tyrol italien que l'Italie a annexé en 1918-19.
Ouais.
Voilà, donc le rythme de la chanson fait peut-être plus allusion au nord de l'Italie plutôt qu'à la frontière avec la France.
Mais bon.
Mais sont les Alpes.
C'est les Alpes, toujours. On va descendre un peu à Cervières.
Oui, alors un magnifique et grand terroir, 110 km carrés, entre 1300 mètres et 3300. 3300, c'est le plus haut sommet là sur toute la région. C'est le pic de Rochebrune qui est à la limite donc, de Cervières et du Queyras. Qui donne son nom aussi à un délicieux fromage de vache côté Queyras. Comme la plupart des communautés de montagne, l'hémorragie en termes de population a été effarante. Entre 600 et 700 habitants tout le 19e siècle et 100 habitants en 1982 et à peine 200 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une perte des 5/6 par la fin de l'économie rurale.
Oui, c'est comme vous avez dit tout à l'heure.
Ouais. Et aussi par la souffrance de l'histoire, puisque Cervières a été en grande partie détruite ou détruite en 1944. Et ensuite, le torrent, la Cerverette, a emporté tout le bas du village. De telle sorte qu'on a recalibré le torrent et on a reconstruit une partie de ce village, qui est un village d'adret, qui regarde vers le sud, qui est très sympathique et qui est relativement connu, moins que Montgenèvre bien sûr, mais relativement connu parce que c'est le pied du col de l'Isoard, qui est une ancienne route stratégique qui a été construite par les chasseurs alpins fin 19e, début 20e, parce que c'était la route de surveillance de la zone frontière entre le nord et le sud, donc entre le Queyras et le Briançonnais, et puis parce que le Tour de France a, dès les années 30, popularisé la difficulté de ce col de l'Isoard, qui est absolument splendide, avec la case déserte, mais qui est côté Queyras. Et puis alors, j'ai des souvenirs, c'est fin octobre, lorsqu'il y a un contraste de couleurs entre l'émeraude des pins sylvestres et l'or des mélèzes, dans toute la montée entre Cervières et l'Isoard, c'est d'une beauté, surtout quand le ciel est d'un bleu foncé, c'est une beauté à couper le souffle, vraiment. Autrement, c'est maintenant une économie d'accueil. Un petit peu l'hiver, avec du ski nordique, du ski de fond. Et évidemment, surtout l'été, avec des colonies de vacances, un musée, une ferme pédagogique, la vente de produits locaux, la pêche dans les torrents, ben c'est magnifique. Signalons le refuge Napoléon, qui a été construit et terminé en 1858. Donc c'était un souhait de Napoléon Ier, mais réalisé par le neveu, par Napoléon III.
Il est allé, oui.
C'est un des 6 refuges d'altitude sur le bord de la route qui ont été financés par un don posthume de Napoléon Ier, mais réalisé sous Napoléon III. Il y en a un aussi au col du Lautaret.
Et Napoléon III, il est venu alors hein?
Je ne sais pas s'il est venu l'inaugurer. Je n'ai pas vérifié. Autrement, c'est vraiment un territoire de montagne avec de très jolis hameaux, avec 10 chapelles, une chapelle dans chaque hameau de montagne. Évidemment, la possibilité de faire de l'escalade, parce que le pic de Rochebrune, avec ses roches dolomitiques, c'est vraiment un sommet d'escalade, ce n'est pas une simple randonnée. C'est, sur le plan géologique, quelque chose d'assez complexe. Différent de Montgenèvre, parce que toute la partie est de la commune est dans ce qu'on appelle la zone piémontaise en termes géologiques, c'est-à-dire les schistes lustrés, ce qui donne un relief assez doux, notamment toute la chaîne frontière. Les schistes lustrés, parce que ce sont des schistes, mais avec beaucoup de mica, donc ça luit, ça scintille au soleil quand ce sont des éboulis ou des falaises ou des roches isolées. Ça scintille au soleil. Plus, ce qu'on a dit pour Montgenèvre, il y a sur Servières le versant sud du Chenaillet, avec notamment toute une zone entre Chenaillet et le col de Bousson, des roches vertes, ces célèbres roches vertes qui structurent le mont Viso en Italie, plus au sud, c'est-à-dire la serpentine. Des roches volcaniques très anciennes qui, si elles sont taillées et polies, donnent quelque chose de splendide. Voilà. Autrement, ce sont les plaquages moréniques, les éboulis, ce qui fait qu'avec quelques pluies d'été, on est dans les fleurs et la verdure, notamment dans cette très longue vallée des fonds de Servières, FONTS, c'est-à-dire les fontaines, les sources, avec aussi très jolis hameaux et puis un accueil, y compris un restaurant d'altitude renommé tout au bout des fonds de Servières, avec des parkings et le départ de très nombreux sentiers. Et puis alors, tous ces plaquages moréniques permettent, beaucoup plus que sur Montgenèvre, où c'est plus calcaire, les lacs d'altitude. Beaucoup de lacs d'altitude, qui sont évidemment des buts de randonnée, et ces bijoux turquoises, quand il fait beau dans l'émeraude des prés, c'est vraiment magnifique. Donc, quelque chose à connaître, à parcourir, ou bien on peut y séjourner. Hein. Il y a énormément de gîtes, il y a des hôtels à Servières. Et la route même entre Briançon et Servières est pittoresque. Plus alors les lacets pour monter au col de l'Isoard. C'est mythique.
Oui, c'est sûr, c'est mythique. J'ai une question. On n'a pas parlé des maladies. Est-ce que la population montagnarde était touchée par certaines maladies, comme dans les villes, comme la peste, les choses comme ça? Ou ici, on n'a rien eu
Alors, on a des recensements que 19e siècle.
Oui, OK.
À partir de là, il n'y a plus ces communautés de montagne. Quelles sont les grandes épidémies du 19e siècle en ville, que ce soit à Marseille, Paris, etc. C'est le choléra, hein, les années 1830 et jusqu'au début des années 1880. C'est rare que ça remonte en montagne. D'accord. Par contre, les zones de montagne ont été tristement célèbres dans le domaine médical pour l'hypertrophie de la thyroïde, les goitres, par manque de certains minéraux, de certains oligo-éléments et surtout d'iode. Bon, après, lorsque le chemin de fer est arrivé, lorsqu'il y a eu une amélioration de la nourriture, fin 19e, début 20e, ça a largement disparu. Mais c'était dans le domaine médical, même chose en Suisse, hein, c'est pas réservé aux Briançonnais. Mais je pense à des cartes postales d'avant 1914 où on photographiait ce qu'on appelait les crétins des Alpes avec ses coups absolument énormes. C'est une horreur. Et même de nos jours, ce serait impensable d'envoyer comme carte postale des handicaps. Des handicaps. Mais bon, c'était considéré comme une curiosité. Il n'y avait peut-être pas la même éthique dans le tourisme avant 1930 ou avant 1914. Voilà, ceux qui collectionnent les cartes postales anciennes, on sent en mémoire, ce qui est une horreur. Le petit poème.
Un poème, pour finir.
Alors, je vais en faire un sur Servières, et puis un sur l'Isoard, quand même. Servières fut martyr des eaux et de la guerre, et par l'effort de tous, le village est prospère. Regardez le torrent de cristal bondissant. Voici vers le midi d'azur resplendissant, Isoard, col étrange, et sa casse déserte. Et l'Orient frontière illumine ses crêtes, randonnée magnifique à l'alpage et au lac, écrin de mille fleurs, faune, géologie, séjour enrichissant de santé, d'énergie. Deuxième acrostiche sur Isoard. Isoard, col sublime et fier sourire alpestre, zéphyr sous le mélèze ornant la pente verte, ô pinacle ébouli de la casse déserte, alpage aux douces fleurs, rumeur des pins sylvestres, refuge tutélaire aux heures de tourmente, dans l'azur du midi, la lumière est charmante.
Super intéressant, merci beaucoup Jean.
On se reverra.
Bien sûr.
Pour faire un peu les alentours de Briançon, il y a bien...
Exact, on va faire un Briançon, bah oui.
Et les alentours avec des communes qui surplombent la conque de Briançon. Je voudrais signaler quelque chose d'important.
Oui.
Chaque année, le 11 août, il y a au col du Lautaret une importante cérémonie, qui est une cérémonie... concernant le 11 août 1944, où une vingtaine de personnes ont été fusillées par les SS, des paysans, le botaniste du jardin alpin, le directeur de l'hôtel, et ensuite, en redescendant côté Villard-d'Arène, une partie des otages ont été tués également par cette colonne SS qui devait maintenir ouverte pour les Allemands la route Briançon-Grenoble. Donc il y a une chapelle au col du Lautaret et c'est la plus importante cérémonie du département. Avec beaucoup de porte-drapeaux, c'est organisé par le Souvenir français de Briançon. C'est entre 10h et 11h30 dans l'alpage. L'an dernier, on a été 2 heures sous les rafales de grésil qui montaient de la Romanche, mais samedi et dimanche, le grand beau temps est annoncé, tant mieux.
D'accord, on va communiquer ça aussi pendant la semaine, hein, parce que c'est important. Ouais, merci beaucoup, Jean.